Donc, je propose à la copine de l'ICEM de venir. Alors, on a beaucoup parlé de Freinet, donc il était un peu normal que l'ICEM fasse la conclusion de cette journée. Et je crois qu'elle va tirer un bilan un peu inquiétant sur ce que deviennent les alternatives pédagogiques, que ce soit celle de Saint-Nazaire, que ce soit celle du Lab, que ce soit celle d'ici et d'ailleurs. Vous avez entendu toute la journée que toutes nos initiatives, je nous englobe, sont mises en danger par le pouvoir d'État aujourd'hui.
Merci.
À toi.
Bonjour. Donc, donc Hélène Carey, je suis enseignante à Aubervilliers dans le 93. Je suis militante à l'ICEM Pédagogie Freinet, donc je suis enseignante et pédagogue en Pédagogie Freinet. Et aussi, je suis militante syndicale, pas à la CNT, mais à Sud Éducation, mais on est proche. On se rejoint sur beaucoup de choses pédagogiquement. Ce matin, il y a eu plusieurs prises de parole pour dire que est-ce que c'est réellement possible aujourd'hui de faire, par exemple, ce qui a été fait à Vitruve, de faire la collègue à la retraite qui était en pédagogie Freinet, qui a parlé des pratiques artistiques. Moi, j'ai envie de vous dire oui, puisque je le fais. Mais par contre, c'est une lutte, et une lutte de tous les moments. Donc, on devait intervenir l'ICEM sur un aspect plus de recherche. Mais comme a dit une camarade de Saint-Nazaire, en fait, moi, j'aimerais avoir le temps de théoriser ma pratique, j'aimerais avoir le temps de faire de la recherche, de lire, d'aller me former, etc. Mais je n'ai pas le temps, parce qu'en fait, je dois lutter tous les jours pour mettre en place ma pédagogie. Je vais vous parler de mon cas particulier et ensuite de généraliser sur la place des pédagogies coopératives et émancipatrices dans l'éducation nationale actuellement. Donc, moi, j'ai été enseignante à l'école Marie Curie à Bobigny, qui est une école qui était en pédagogie Freinet pendant à peu près 20 ans, avec une directrice, Véronique Decker, qui a écrit des livres, peut-être que vous l'avez lu. Et en 2019, Véronique Decker est partie à la retraite, et là, tout s'est écroulé. En un an, en fait, ils ont cassé tout ce qui avait été construit pendant 20 ans. Donc on était une équipe, donc on n'était pas une école labellisée, donc n'importe qui faisait le mouvement pouvait venir dans cette école. Donc il y avait des collègues, moi j'y suis allée parce que c'était en pédagogie Freinet, comme beaucoup de collègues. Au fur et à mesure des années, c'était un peu moins ça, mais les collègues qui venaient quand même de façon générale faisaient le conseil de classe, participaient à nos différentes instances de l'école. On a eu dès la rentrée du coup 2019 une nouvelle directrice. On s'est dit, OK, on va travailler ensemble, hein, on n'a pas le choix, de toute façon, on n'avait pas d'a priori sur elle. Et puis, petit à petit, l'inspectrice est revenue de plus en plus souvent dans l'école. Et il y a eu une inspection d'école, il y a eu une remise en cause constante de notre pédagogie. On utilisait aussi la libre circulation dans l'école, donc petit à petit, ça aussi, elle est revenue sur ça. Sur les évaluations CPCE1, jusqu'à présent, on ne les faisait pas, on ne remplissait pas non plus les livrets scolaires en ligne. Et on restait un collectif, puis au fil de l'année, en plus il y a eu la période Covid qui est venue à s'ajouter à ça, donc ça n'a pas aidé. Petit à petit, on se disait, on va lâcher sur ça, parce qu'il va falloir qu'on lutte sur ça. Donc on a lâché sur le LSU, on a rempli les livrets en ligne, on s'est dit, on ne va pas se battre là-dessus. Puis après, ça a été les évaluations, parce qu'on a eu l'inspectrice qui est venue dans l'école pour nous mettre des gros coups de pression, mais vraiment, enfin, c'était limite une garde à vue, elle nous a pris une par une, les collègues, pour nous obliger, en nous menaçant avec son téléphone, etc., d'appeler le DAZN si on faisait pas les évaluations. Donc on s'est dit, il va falloir lutter sur autre chose encore plus, donc on va accepter les évaluations, etc. Le point final, on va dire, donc, ça a été la mutation. En fait, j'ai subi une mutation dans l'intérêt du service. Selon l'inspectrice, j'étais la disciple de Véronique Decker, donc c'était moi de toute manière qu'il fallait écarter de l'école. Et donc une mutation dans l'intérêt du service, c'est pas une sanction selon la hiérarchie, selon l'administration, c'était dans l'intérêt de l'école, pas l'intérêt des élèves, mais l'intérêt de l'école, pour ramener la sérénité dans cette école. Une mutation dans l'intérêt du service, c'est très brutal, c'est-à-dire que j'avais été interdite de CP par cette même inspectrice, donc j'avais une classe de CM1, et au mois de, juste avant les vacances d'hiver, au mois de février, je reçois une lettre qui me dit que je dois aller consulter mon dossier administratif au préalable d'une mutation dans l'intérêt du service. Je ne connaissais pas ce terme, j'étais déchargée pour le syndicat, j'avais quand même quelques connaissances, sur le droit syndical, etc. Mais c'est vrai que ça, c'était un peu nouveau. Je me suis dit, mais non, ça va passer par un conseil de discipline, etc. Il va y avoir toute une procédure. Et en fait, non. Je suis allée consulter mon dossier. Je n'ai jamais été reçue par le DAZN. Je suis allée consulter mon dossier le mercredi. Le vendredi soir, on était en vacances d'hiver. Le lundi, je recevais une lettre pour me muter dans une autre école à Aubervilliers. Donc, je n'ai pas dit au revoir à mes élèves. Ça faisait 7 ans que j'étais dans cette école. Je suis partie avec toutes mes affaires. Enfin, je suis repassée à l'école pendant les vacances. Je suis partie. Je n'ai jamais remis les pieds dans cette école. C'est l'école Marie Curie à Bobigny, oui. Après, on peut se demander, la mutation d'intérêt du service, c'est dans l'intérêt de qui? En fait, sûrement pas des enfants, puisque suite à mon départ, ils ont eu une collègue contractuelle qui, dès la rentrée, leur a dit « Vous mettez tout à la poubelle ce que vous avez fait avec l'ancienne maîtresse ». Donc, en fait, j'ai été effacée de cette école. Et actuellement, l'école fonctionne, il n'y a plus aucun enseignant en pédagogie Freinet. Enfin, c'est devenu une école qui est rentrée dans le moule, on va dire. Je suis allée au TA, au tribunal administratif, pour un recours. L'année dernière, j'ai gagné, parce que le juge, en fait, a reconnu que, justement, c'était pas dans l'intérêt des enfants. On pensait gagner sur un point de vue répression anti-syndicale, puisque j'étais déchargée poursuivie d'éducation à ce moment-là. Mais en fait, la juge, elle a pas retenu ça. Elle a retenu vraiment l'intérêt des enfants, qu'il y avait aucun intérêt à ce que ce soit muté en milieu d'année, parce que les élèves n'ont pas pu finir leur année. Ce que j'ai subi, c'est vraiment pas un cas particulier. En fait, on en a de plus en plus. Là, on a eu le témoignage du LAP. Mais comme Pascal a dit, on est un collectif, sois prof et tais-toi. Et en fait, on essaye de réunir toutes ces situations. Donc, il y a le LAP, il y a l'école, il y a 6 collègues l'année d'après, à l'école Pasteur à Saint-Denis, qui ont aussi été mutés dans l'intérêt du service, 6 d'un coup pendant les vacances d'avril, qui n'étaient pas en pédagogie Freinet, mais qui étaient quand même qui utilisaient une pédagogie émancipatrice et autogestionnaire. Dernièrement, il y a la section Freinet du lycée de La Ciotat. On n'en a pas trop parlé, mais en fait, au lycée de La Ciotat, il y a une section Freinet. Et petit à petit, il y a une enquête administrative. Et ils ont préconisé, donc il n'y a plus de poste à profil. Donc en fait, n'importe qui ira au lycée. Ils ont aussi enlevé toutes les... je ne maîtrise pas tout, mais les spécialités, les enseignements de spécialité au lycée, ils les ont toutes fait passer au lycée général, donc ce n'est plus au lycée Freinet. Ils ont enlevé des postes, donc en fait, petit à petit, il ne va aussi plus avoir de section Freinet. À l'inverse, parce que les postes à profil, on peut aussi en discuter, parce que du coup, ça, dans l'école publique, ça questionne, en fait, comment on choisit les enseignants qui viennent dans les écoles, que ce soit au LAP, au lycée Freinet, etc. À l'inverse, à l'école d'Hérouville-Saint-Clair, c'était une école aussi en pédagogie Freinet, une équipe qui était là depuis très longtemps, ils ont mis des postes à profil, mais en fait, c'était toujours dans la logique de casser ce collectif, parce que c'est-à-dire que les profs qui étaient là depuis très longtemps sur leur poste ont dû passer un entretien pour avoir pour enseigner dans leur propre classe, en fait. Donc la plupart ont refusé, donc elles ne sont plus dans cette école. C'est encore une école, du coup, labellisée Freinet, puisqu'il y a des postes à profil, mais en fait, ils ont écarté toute l'ancienne équipe, donc c'est toute une nouvelle équipe. Donc il y a toute cette volonté, c'est une volonté politique de casser les collectifs qui travaillent de façon coopérative, parce que c'est aussi casser à Marie Curie, nos conseils de maîtres et maîtresses ressemblaient aux conseils de classe, en fait. On avait quelqu'un qui présidait, c'était pas forcément la directrice, quelqu'un qui prenait les notes, quelqu'un qui distribuait la parole, etc. On faisait en sorte que ça fonctionne de pareil. Aujourd'hui, les conseils de maîtres et maîtresses, c'est une directrice ou un directeur qui va nous dire ce que l'inspecteur ou l'inspectrice a dit, enfin qui répète ce que le DAZN a dit, etc. Et pour casser ces collectifs, donc on en a parlé, ça va de des pressions avec des convocations, mais ça marche assez bien sur les collègues, en fait. Beaucoup, beaucoup de collègues sont quand même convoqués régulièrement par leur inspecteur et inspectrice, et en fait, ils reviennent en classe et ils préfèrent en fait dire « bon, bah, c'est bon, là, j'arrête tout ». Il y a les blâmes, bien sûr, il y a les enquêtes administratives, il y a les enquêtes à 360 aussi, c'est des nouveaux procédés de l'administration qui viennent dans un collège ou un lycée, ça se passe plus dans le second degré, et puis ils vont aller interroger un peu tout le monde et ils vont trouver ce qu'ils ont envie de trouver pour sanctionner. Et il y a les mutations donc dans l'intérêt du service qui se font de plus en plus souvent, qui sont des sanctions déguisées. Donc pourquoi est-ce qu'on nous en veut? Eh bien parce que c'est un choix politique tout simplement et que la pédagogie est un choix politique. Je ne sais plus, tout à l'heure on a dit est-ce qu'on peut choisir notre pédagogie, tout à fait. Et en fait, la politique du gouvernement est aussi un choix en fait. Donc ce fameux devoir de neutralité qu'on nous ressorte à tout va, etc., qu'on ne respecterait pas ce devoir de neutralité, en fait, il n'a aucun sens, puisque en fait, si on respecte les directives du gouvernement, on respecte leur politique, mais c'est aussi une politique comme une autre, quoi, en fait. Et nous, ce n'est pas celle qu'on veut. Donc depuis quelques années, en plus, on doit faire face, enfin, c'est peut-être pour ça que ce matin, on disait « est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire ça ?» Parce que depuis quelques années, on doit faire face à plein de réformes réactionnaires. Donc on en a parlé, il y a le SNU. Là, on nous a sorti le port de l'uniforme. Voilà, je ne vais pas toutes les citer, sinon ça va être long, depuis Blanquer, en tout cas. Et on a de plus en plus de difficultés, donc avec ce qu'on appelle la liberté pédagogique, qui est de plus en plus restreinte, mais il faut se battre pour qu'on... Encore, parce que en fait, tout ça, ça existe. Il ne s'appuie sur rien, l'administration, en fait. Ils vont à chaque fois nous reprocher des choses, etc. Mais en fait, dans les textes, on peut se défendre la liberté. On a la liberté pédagogique, elle existe encore dans les textes. Ce devoir de réserve, on peut le casser assez rapidement. Mais en fait, ce sont toujours eux qui ont le dernier mot. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand même, au final. Au niveau des attaques plus spécifiques à l'ICEM et de façon générale au mouvement de pédagogie coopérative, il y a tous nos outils et techniques. Ils ne nous dénigrent pas. Quand on va au ministère, enfin moi j'ai rencontré plusieurs fois le ministère au nom de l'ICEM, ils sont super contents de nos outils, de nos magazines, du conseil de classe, de la classe dehors. Ils savent qui on est, ils savent ce qu'on fait. Et... Ils l'utilisent même, puisque dans leur nouveau projet, là où il faut faire des gros dossiers pour avoir des subventions, donc c'est les projets NEFL, il y a plein d'argent qui sont donnés aux classes dehors, aux classes flexibles, etc. Mais c'est complètement vidé de tout sens politique, en fait. Ils utilisent nos outils, mais avec rien derrière. Et avec ces outils, nous, ce qu'on travaille, c'est faire prendre conscience aux élèves qu'il est dans un système, qu'il peut avoir un impact sur le système. Et en fait, là, c'est rien du tout. C'est, moi, par exemple, dans un conseil de classe, c'est pas juste, OK, on fait de l'oral, on discute, les élèves, ils s'améliorent sur leur argumentation, etc. C'est ce qui plaît à l'éducation nationale et c'est ce qu'on va dire quand on est inspecté. On va dire, mais si, voilà, on travaille sur l'argumentaire, etc. Mais en fait, ça travaille autre chose. Et moi, ce que je veux, c'est juste mettre à égalité, à un moment donné, dans la classe, une ou deux fois par semaine, c'est on réfléchit ensemble au fonctionnement de la classe. Par exemple, là, dernièrement, il y a mes élèves, ils me demandent du travail, en fait. Enfin, ils me disent, ah, la maîtresse, il faudrait que tu fasses plus ça, il faudrait que tu fasses plus ça. Enfin, ils font des commandes de travail. Donc voilà, c'est ça où on veut en arriver, où on est sur un plan d'égalité. Sur le texte libre, pareil, donc qui est... En général, on ne nous reproche pas de faire des textes libres. C'est des rédactions, c'est etc. On ne nous reproche pas en classe. Mais en fait, le texte libre, il amène à quoi? Oui, en effet, plein de fois, c'est des petites histoires enfin, qui ont leur importance, les histoires des enfants inventées avec des personnages, etc. Mais l'autre fois, par exemple, dans un texte libre, j'ai eu une lettre au président où une élève demandait, elle a fait sa lettre et puis on l'a postée, on verra si on a une réponse. Elle voulait savoir pourquoi est-ce que sur les 11 jours fériés, il y avait 6 fêtes chrétiennes et qu'il n'y avait pas de fêtes musulmanes. Donc elle faisait la demande qu'il y ait un jour férié ou deux pour les fêtes musulmanes. Donc voilà, c'est aussi tout ça qui amène ça. Il y a, pareil, on a parlé de la classe dehors. Alors oui, c'est hyper à la mode d'aller faire des maths dehors, d'aller faire plein de choses dehors. Mais qu'est-ce qu'on met derrière, en fait, tout ça? Moi, quand je vais avec mes élèves le long du canal, c'est aussi, voilà, c'est petit à petit, c'est pour qu'ils se questionnent sur plein de choses. L'autre fois, ils ont vu la plaque où il y avait en hommage à Fatima Bédard, donc, qui a été jetée dans le canal de Saint-Denis le 17 octobre 61. Donc voilà, ça a amené tout un questionnement et on a fait tout un travail là-dessus. En histoire, pareil, l'autre fois, ils ont posé la question, une fois que je ne sais plus ce qu'on travaillait, mais finalement, qui a le pouvoir en France ? Donc on a fait tout un travail sur qui a le pouvoir en France. Ça a amené à une élève qui a posé une question. On a un classeur avec ceux et celles qui ont lutté. Et puis au bout d'un moment, elle lève la main, elle fait « Mais est-ce qu'on pourrait dire que ceux et celles qui ont lutté, ils ont aussi du pouvoir en France ?» J'ai laissé la question en suspens, j'ai trouvé ça trop beau pour y répondre. Sur nos outils aussi, et sur nos formations, en fait, là où pareil, on n'est pas attaqué directement à l'ICEM. Je pourrais parler aussi pour... Enfin, je ne suis pas au GFEN, mais c'est un peu la même chose et dans d'autres mouvements d'éducation nouvelle aussi. Mais en fait, on a une grosse, grosse baisse de subventions. C'est vrai que ça questionne. On pourrait être en autogestion. C'est un choix qui se discute au sein du mouvement. Mais pour l'instant, on n'est pas en autogestion et on dépend beaucoup de la subvention du ministère de l'Éducation nationale, mais qui baisse vraiment d'année en année, qui fait qu'on a pratiquement plus personne pour travailler. C'est des détachés qui viennent travailler à l'ICEM, mais on a petit à petit, à une époque, il y en avait une dizaine. Aujourd'hui, il n'y en a plus que deux. On peut financer plus que deux détachés. Donc il y a cette baisse de subventions qui nous empêche de produire, de travailler, de nous former. Et il y a l'autre aspect, parce qu'on fait ça aussi sur nos temps de vacances, mais on essaye aussi de faire ça sur temps scolaire. Et petit à petit, pareil, on n'a plus aucune autorisation d'absence sur temps scolaire. Alors c'est toujours pareil, c'est dans l'intérêt du service. On a aussi des choses très variées, hein, des motifs. Là, il y avait eu un stage dernièrement pour les revues de l'ICEM. Alors on a des motifs parfois, du coup de plus en plus aussi, on a des autorisations d'absence, mais du coup sans salaire. Donc les collègues doivent s'absenter, enfin vont aller travailler à l'ICEM, mais ne seront pas payés. On a eu aussi dernièrement des autorisations d'absence. Par contre, il fallait en obligeant la collègue à faire une formation pendant ses vacances. Donc elle devait des heures limite voilà, à l'éducation nationale. Enfin, on a de plus en plus des choses très délirantes sur ces non-autorisations d'absence. Un autre aspect donc, de la répression envers notre pédagogie, c'est on est une pédagogie émancipatrice et on travaille sur toutes les oppressions. Et comme ce que je racontais sur la classe dehors, etc., bien sûr, à l'éducation nationale, la lutte contre les discriminations, elle est présente. On nous demande de travailler, de faire des choses contre le racisme, contre le validisme, etc. Mais on reste sur des combats, enfin sur des demandes, on ne peut pas parler de combats à l'éducation nationale, de leurs demandes, mais on reste sur des... on nous demande sur des luttes individuelles et interpersonnelles, le racisme entre deux personnes, le validisme entre deux personnes. Mais nous, on ne veut pas se limiter à ça. On doit travailler aussi sur les oppressions qui sont systémiques, et donc que ce soit en termes de lutte de classe. Mais voilà, si on reprend tous les écrits de Freinet, etc., qui étaient à la campagne, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé que oui, ça ne correspond pas forcément à nous, nos écoles du 93. Mais du coup, au fil des années, il y a aussi la lutte l'antiracisme, contre l'islamophobie, l'antivalidisme, l'antisexisme, contre l'homophobie, la transphobie. Toutes ces luttes-là, elles sont présentes dans nos classes. Et ça, ça ne plaît pas. Il y a beaucoup, beaucoup de répressions quand même ces derniers temps qui sont basées sur les questions de laïcité. Donc on les retrouve aussi. Voilà. Et sur... de façon... J'allais conclure un peu. Non, mais la conclusion que j'avais prévue, il y a plein de choses qui ont été dites, entre autres par le camarade du LATP et aussi les camarades de Saint-Nazaire, sur le fait qu'en fait, on doit continuer de lutter. Notre classe, ça reste une bulle. On arrive quand même à faire des bulles à nos écoles aussi, par certains aspects. Mais par contre, on doit le faire ensemble. En fait, les collectifs, ils sont hyper importants dans cette période où il y a quand même un gros, gros recul et beaucoup d'individualisme. Et du coup, on doit résister ensemble. Et on doit aussi assumer, en fait, notre pédagogie. Je sais que c'est compliqué pour plein de collègues de dire qu'ils sont en pédagogie Freinet, qu'ils sont en pédagogie alternative, pédagogie émancipatrice, etc. Il y en a plein qui font dans leur classe, mais qui ne l'assument pas, qui vont dire « non, mais moi, ils ne mettent pas de mots derrière tout ça ». Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ait le courage d'assumer ça. Et bien sûr, individuellement, on ne va pas prendre des risques, mais c'est pour ça qu'il faut rejoindre les collectifs. Il y a Convergence qu'a parlé donc les camarades de Saint-Nazaire, donc qui regroupe la FESPI, le GFEN, l'ICEM, les CMEA, etc. Il y a le collectif, on a parlé, Sois prof et tais-toi. Après, il y a des journées comme aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'était important d'être là parce que c'est aussi dans ces journées où on permet de créer du collectif. Donc voilà, moi je suis optimiste. On peut, on peut encore faire aujourd'hui de la pédagogie émancipatrice et coopérative dans nos classes, mais il faut créer du collectif, collectif qu'on ne retrouve pas forcément dans nos écoles, mais du coup il faut aller le chercher ailleurs et il faut croire en ce collectif pour avancer.
Merci. Donc il faut faire comme Mao Tse-tung, quoi. C'est oser lutter, oser vaincre. C'est pas mal quand même. Hein. Voilà. Cela dit, ce que disait la copine là, qu'on voit partout, c'est qu'on a le droit de faire de la pédagogie à condition qu'elle ne soit pas articulée à un projet politique émancipateur. Donc, ils utilisent tous les outils que les pédagogies dites nouvelles ou alternatives ont pu construire depuis 100 ans, à condition que ce ne soit pas en lien avec l'émancipation. Et il y a un texte de James Guillaume que j'aime à citer. James Guillaume dit... Dès 1876, il faut mettre en place des conseils, il faut mettre en place des décisions prises par les enfants, parce que ça leur apprendra à gérer la société autrement. Et ce qui gêne dans nos pédagogies, c'est que si on fait des pédagogies autogestionnaires, si les enfants sont capables d'autogérer une classe, peut-être qu'un jour, ils seraient capables d'autogérer des usines, des bureaux, ou je ne sais trop quoi encore. Et c'est extrêmement grave et inquiétant pour ces gens-là. Donc ils nous autorisent à la périphérie, ils nous répriment dès qu'ils peuvent, et ils s'emparent de notre outillage parce que l'heure est absolument inintéressante. Des remarques, des compléments, des remerciements. Donc il faut que je me déplace jusque là-bas. C'est la, celle qui est le plus loin de moi qui m'a demandé la parole, exprès.
C'était juste un complément sur justement l'usage et l'abus même d'usage des outils Freinet ou même de la pédagogie institutionnelle avec les postes à profil dont parlait la camarade. Il y a un texte qui est fabuleux, je crois, dans un magazine qui s'appelait Pédagogie radicale qui a vécu peut-être sur un seul numéro. Mais cet article est assez fabuleux. C'est une enquête sur les pratiques de l'institution et sur en fait l'usage des outils qui rendent les enfants plus coopératifs et donc plus adaptables. Et il y a vraiment des rapports qui ont été rédigés en ce sens au sein des ministères qui dit que utiliser les outils donc construits dans les mouvements libertaires, émancipateurs, etc., ce sont des outils qui vont rendre le futur travailleur plus adapté à se soumettre aux ordres, puisque justement la coopération, c'est aussi s'adapter aux autres. Donc effectivement, dénué d'un projet politique, ça fait de très bons esclaves. Et c'est clairement dit dans les hautes sphères.
Ce que dit la copine, là, ça a été démontré par ceux qui ont travaillé sur la sociologie des riches. Effectivement, dans un des lycées les plus cotés de Suisse, où ne viennent que les enfants de la très haute bourgeoisie ou de l'aristocratie, qu'est-ce qu'ils utilisent comme méthode pour apprendre ? La méthode Freinet. Et sachant que leur projet politique est un peu différent du nôtre, puisqu'ils vont devenir des gens qui coopèrent, des gens qui décident et des gens qui nous exploitent. Oui, l'école alsacienne ici aussi. Ouais.